RCF. Sur RCF, l'heure du 18-19 en région, nous retrouvons Jean-Pierre Benoît et Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur RCF France Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne Ardennes et en DAB+. Du monde autour de cette table, il y en a notamment Gérard-Marie Henry, notre chroniqueur économiste. Bonjour Gérard-Marie.
Bonjour tout le monde.
On parlera cosmétiques et relations franco-chinoises. On a également notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares, qui nous accompagne. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Et au programme de ce magazine régional, on sera avec un maire, Didier Herbillon, le maire de Sedan, pour revenir sur l'actualité. On parlera des nouvelles de nos diocèses, on parlera de la vie en foyer avec Maria. C'est un témoignage très poignant dans Parole de Jeunes avec Jeanne Boudre. Mais il est là, ce jeudi, à nos côtés, Jean-Pierre Benoît, pour évoquer l'actualité. C'est la venue du pape à Marseille et Mgr Éric de Moulin-Beaufort l'a accueilli il y a quelques minutes, Jean-Pierre.
Oui, il y a quelques minutes, nous étions en direct avec Marseille, car Mgr Éric de Moulin-Beaufort a participé à une rencontre avec les évêques, dont l'une des invitées importante de l'après-midi était Madame Christine Lagarde, qui est responsable de la Banque Centrale Européenne et elle a dirigé le Fonds Monétaire International. Elle a expliqué aux évêques, enfin, et pas que aux évêques, mais enfin, en grande partie les 50 évêques qui étaient là, les aspects économiques de la Méditerranée, bien au-delà des problèmes des migrants, dans un contexte beaucoup plus général. Mgr Éric de Moulin-Beaufort est revenu sur son programme de ce soir. Il va accueillir, il sera pas tout seul, mais il va accueillir le pape François à l'aéroport de Marseille. Ce sera demain après-midi en tant que président de la conférence des évêques de France. On l'écoutera tout à l'heure. Et demain matin à 7h et 8h, Mgr Véteux, qui est évêque auxiliaire de Reims, sera avec nous. Et il évoquera sans doute aussi le rassemblement de Marseille. Et lui, il part à Marseille. Ce sera dans la matinée de demain.
Eh bien, merci Jean-Pierre pour toutes ces précisions. On retrouvera Mgr Éric de Moulin-Beaufort juste après le journal régional. Les évêques de France ont eu affaire à Christine Lagarde cet après-midi. Nous, dans le magazine régional, on a Gérard-Marie Henry et on est très content de la voir. Bonjour Gérard.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Les ventes de cosmétiques en Chine, c'est une affaire qui fonctionne bien.
Oui, en fait, les Chinois, l'économie chinoise marche pas très bien. Les Chinois achètent moins d'appartements, moins d'automobiles. Mais c'est surtout les Chinoises qui se disent que c'est pas mal quand même de se mettre un petit peu de truc sur la figure. Donc les ventes de cosmétiques sont reparties en force dans l'empire du milieu.
Mais pourtant, les relations entre la Chine et les pays qui importent ces produits cosmétiques ne sont pas au beau fixe.
Oui, alors on s'est aperçu en fait que les Chinois qui achetaient des cosmétiques, eh ben, ils étaient amenés à acheter plutôt des produits chinois que les produits que nous vendons, nous, LVMH, etc. Et donc, on a les explications à ce problème. C'est que les autorités chinoises ont mis un certain nombre de règles qu'elles ont le droit de mettre avec ce que dit l'Organisation mondiale du commerce. Hein. Dès qu'il est question de santé, vous avez le droit de prendre des règles de protection de vos habitants. Et donc ces règles obligent les producteurs de cosmétiques occidentaux, on va dire français, américains surtout, à expliquer un peu ce qu'ils ont mis dans leurs produits en détail, avec énormément de précision, ce qui va permettre évidemment à une entreprise chinoise, si elle a de recopier au hasard la formule et de faire quelque chose qui y ressemble assez exactement.
Donc, à partir de là, les consommateurs chinois et notamment les chinoises, eh bien, préfèrent les marques chinoises qui sont favorisées sur le marché asiatique.
Et qui sont moins chères que les produits occidentaux. Et donc, là, on a un sujet assez important, puisque même notre ministre de l'économie, monsieur Le Maire, a dit que c'était pas des cacahuètes.
Il est monté au créneau.
Il a dit c'est pas des cacahuètes. Hein. Pour certaines entreprises françaises, le marché chinois représente le tiers de leur chiffre d'affaires. Et s'ils le perdent, elles vont aller droit dans le mur. Donc, on a vraiment des discussions entre les dirigeants français et les dirigeants chinois pour essayer d'assouplir ces réglementations qui pénalisent nos exportateurs.
Et puis à l'inverse, j'allais dire, les Européens ou les Américains ne peuvent pas restreindre les produits chinois puisqu'ils ont déjà la formule.
Oui, et puis que personne ne va acheter de produits chinois pour l'instant. En fait, les trois grands producteurs dans le monde de cosmétiques connus, on va dire, c'est les Européens, surtout les Français, les Américains et les Japonais. Et les Chinois sont très loin derrière. Enfin, vous n'avez pas de produits chinois dans les présentoirs français parce que c'est des produits, en fait, relativement bas de gamme ou simplement des copies de produits que vous avez déjà chez vous.
Alors, si l'on fait une photographie à date, il y a des pourparlers en cours, c'est toujours l'actualité.
Oui, il y a des pourparlers, mais alors on a une position qui est difficile à, a changé, puisque, encore une fois, je réexplique, hein, les règles de l'Organisation mondiale du commerce autorisent un pays à pratiquer des mesures de protection de la santé de ses habitants. C'est pour ça qu'il y a à peu près 3 semaines, on était très contents en France, puisque les Australiens avaient accepté que le porc français puisse être vendu. Jusqu'à présent, ils disaient, le porc français, il n'est pas très propre sur lui, et donc on l'interdit à l'importation, on a le droit de le faire. Puis là, ils ont dit, les mesures sanitaires que les Français ont prises sont suffisantes, et donc on va pouvoir vendre du porc. Mais vous voyez qu'on a un article 20 qui permet, pour des raisons de santé publique ou d'ordre public, de bloquer les importations ou de freiner les importations sans que la personne, enfin le pays qui est en cause, puisse dire « non, moi je me venge, je te tape dessus, je te mets des droits, etc. »
Mais Gérard-Marie-Henri, lorsque l'on joue à un jeu et que l'on est en train de perdre, on change les règles. On peut changer les règles en cours de route.
Non, les règles, elles sont là pour tout le monde et les Chinois en profitent et ils ont raison. On en profite également quand on met des droits anti-dumping sur certains produits chinois.
On en avait parlé notamment la semaine dernière.
Voilà, et donc on va peut-être leur mettre des droits anti-dumping sur leurs voitures électriques et ils ne pourront pas protester auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est un jeu dans lequel on a aggravation en fait des contraintes et ce n'est pas très bon pour la suite.
J'allais dire, la suite, est-ce qu'il y a aussi davantage dangers pour ces entreprises, notamment japonaises, américaines, européennes, puisque si les Chinois arrivent à le vendre sur leur continent, peut-être qu'ils ne vont pas tarder à exporter aussi leurs produits chez nous.
Peut-être dans 10 ans, 15 ans, on peut penser ça. Alors, donc, les grandes entreprises françaises comme LVMH se disent que de toute façon, les consommatrices chinoises, quand elles le peuvent, achètent les produits haut de gamme, comme elles achètent le dernier iPhone. Par exemple, les autorités chinoises ont dit que c'était pas beau d'acheter Apple, mais les Chinois ont ratisser toutes les numéros 15 qui étaient disponibles. Donc c'est pareil pour les produits français haut de gamme, ces réglementations chinoises, ne sont pas très très gênantes. Par contre, pour toutes les entreprises qui sont derrière, celles qui sont moins connues, celles qui n'ont pas de pouvoir sur le marché, les blocages chinois sont extrêmement embêtants.
Alors Gérard-Marie-Henri, il y a déjà toutes les contraintes économiques, et puis je vais dire, après il y a toutes les contraintes sociétales, notamment aussi la maltraitance animale, vous parliez des porcs tout à l'heure, c'est une des contraintes qui entre aussi en compte dans ce calcul.
On ne l'a pas évoqué, mais en fait les Chinois demandent que la plupart des cosmétiques qui sont mis en vente sur leur marché aient été testés sur des animaux. Or, depuis une vingtaine d'années, en Europe, aux États-Unis, on essaye de limiter justement ces tests sur les animaux, et là on est obligé, juste pour vendre sur le marché chinois, de refaire des injections sur des pauvres bêtes, et donc des choses qui sont absolument inutiles, mais que la réglementation chinoise oblige.
Alors finalement, on est obligé de trouver un juste milieu entre ce que l'on veut produire pour l'Europe, ce que l'on veut produire pour l'étranger, hors Europe en tout cas, sur d'autres continents, notamment pour l'Asie, etc. C'est un mix un petit peu compliqué, un consensus difficile à faire.
Pour des petites et moyennes entreprises, c'est très difficile. En fait, elles vont être moins tentées d'aller à l'international. Pour les très grandes entreprises françaises qui sont très connues, elles ont suffisamment de pouvoir sur le marché pour pouvoir résister à ces ennuis. Mais on a tout le deuxième paquet des entreprises européennes, françaises et européennes, qui vont souffrir par cette guerre commerciale qui est embêtante.
Est-ce qu'il y a un moyen tout de même de pouvoir retourner la situation ?
On est en train de chercher. On est en train de chercher. Peut-être que ça pourrait être le deal entre on ne vous met pas de droit anti-dumping sur les voitures, on vous laisse un peu conquérir le marché européen. Mais vous ne nous embêtez pas sur des tas de réglementations dans le domaine des cosmétiques et d'autres domaines, puisque ça, c'est qu'un exemple particulier des embêtements que les Chinois mettent aux entreprises occidentales sur leur marché.
On a dit photographie à date pour parler en cours. Ça prend combien de temps, ce genre de discussion ? Parce que nous, on est, dans l'information, dans l'actualité. Ça se passe en une minute. On essaye de donner le dernier scoop à la mode. Là, c'est un petit peu plus long dans l'économie.
Oui, 2-3 ans, on va dire.
Ah oui ? Il va falloir être patient.
2-3 ans, oui, pour qu'on ait le temps de voir quel est ce que payent les entreprises, combien ça leur coûte, pour qu'on puisse faire un devis exact et que la partie chinoise puisse répondre en disant « mais non, vous n'êtes pas aussi pressuré que ça », etc. Et donc, en général, ces discussions, elles se font en bilatéral. Et puis, quand on essaye de faire un peu mieux, on va à Genève, à l'Organisation mondiale du commerce, pour faire participer d'autres pays qui seraient concernés.
Mais en 2-3 ans, autant ça laisse du temps pour prendre la visibilité, ça pénalise aussi certaines entreprises. La tendance peut s'inverser, le marché peut bouger, c'est un petit peu compliqué.
C'est ça les discussions internationales, c'est pas des choses qu'on décide comme ça en un clin d'œil. On va avoir toute une série de dossiers qui vont être mis au point pour pouvoir justifier la position européenne. Et de leur côté, les Chinois, évidemment, sont en train de faire la même chose. Et il faudra après peut-être trouver un modus vivendi, ce qui n'est pas évident.
J'allais dire, Gérard Marie-Henri, comme bien souvent en économie, affaire à suivre.
Affaire à suivre, on retrouve ça dans 3 ans.
Il faudra être un petit peu patient, mais on va noter pour en parler d'ici 2026. Rendez-vous en septembre 2026, Gérard Marie-Henri.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Jean-Pierre Benoît, vous êtes toujours avec nous à 18h20. Évidemment, l'actualité du jour, c'est Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui est à Marseille avec la visite du pape à Marseille.
Oui, alors les rencontres méditerranéennes, il faut le rappeler, n'ont pas commencé et ne commencent pas demain. Les rencontres méditerranéennes sont déjà en route depuis quelques jours et des jeunes ont déjà participé, un peu comme pour les JMJ, vous voyez. Ils se sont retrouvés, il y a des échanges de nombreux pays de la Méditerranée et ces échanges se sont poursuivis aujourd'hui et Mgr Éric de Moulin-Beaufort y était également au titre de la conférence des évêques de France. Il y est aussi demain pour accueillir à l'aéroport de Marseille le pape François, avec d'autres bien entendu. Alors demain matin, on y reviendra
sur
RCF en Sardaigne avec Mgr Véteux, Mgr Étienne Véteux, qui lui-même aussi va se rendre bien évidemment à Marseille. On envisagera quelques enjeux de ces rencontres. On envisagera également la vie diocésaine, les découvertes de Mgr Étienne Véteux. Et puis donc ce soir, on retrouvera donc Mgr Éric de Moulin-Beaufort pour la journée de ce soir et de demain.
Ça sera dans quelques minutes, juste après le journal régional de 18h30. Mais pour l'heure, l'actualité, comme tous les soirs, Jean-Pierre, c'est un maire qui nous parle, un maire bien connu du territoire, l'édile de Sedan, Didier Herbillon, est avec vous ce soir et est aussi premier vice-président d'Ardenne Métropole.
Didier Herbillon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par une excellente nouvelle, puisque le château fort de Sedan est le monument préféré des Français. On l'a appris tout récemment.
Eh oui, effectivement, on a eu cette grande joie et cette grande fierté d'avoir été élu monument préféré des Français. C'est la consécration, je crois, pour notre château, pour notre ville, parce que ça fait plus de 40 ans que les municipalités successives travaillent à le restaurer, à l'animer, à faire en sorte que ce soit un véritable produit touristique. Aujourd'hui, c'est fait. Le château, vous le voyez, acquiert des lettres de noblesse nationale et sans doute internationale également de ce fait. Nous sommes ravis que tous ces efforts aient été couronnés et salués.
Ça va donner, monsieur le maire, un coup de projecteur considérable sur ce temps, sur l'attractivité. Une émission qui est relayée comme ça, d'ailleurs sur les grandes chaînes de télé comme France 2 tout récemment, forcément ça va attirer du public.
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, tous les monuments qui ont obtenu ce label ces dernières années, ont vu leur fréquentation augmenter de entre 25 et 30%. Sedan n'échappera pas à cette belle règle et on fera tout en effet pour booster aussi, nous, de notre côté, cette fréquentation en surfant sur cet événement. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est très important pour vos auditeurs, c'est que il y a une espèce d'alignement des planètes autour du château fort, parce que on va entrer dans le 600e anniversaire de l'existence du château, et on avait prévu, la ville de Sedan a prévu de nombreuses manifestations. Alors, vous voyez, c'est très bien, il y a une forme d'aubaine là qui nous arrive pour encore plus fêter cet anniversaire.
Alors monsieur le maire, on va, comme tous les maires sur RCF en ce moment, tous le midi et le soir à 18h20, présenter un peu Sedan aujourd'hui. Combien d'habitants aujourd'hui à Sedan, monsieur le maire?
Alors, il y a aujourd'hui à Sedan un peu plus de 17 000 habitants. Pour la première fois en 2023, au recensement de 2023, nous avons gagné des habitants, c'est-à-dire 300 habitants, et c'est la seule ville ardennaise dans ce cas-là. Le recensement de décembre prochain, qui sera annoncé en décembre prochain, annoncera aussi une augmentation de la population. Donc on est sur une petite dynamique. Je dis petite parce que 300 c'est quand même important, mais il faut que ça s'inscrive dans la durée. Une reprise démographique, elle peut être provisoire et ne pas s'inscrire dans la durée. Donc je suis prudent sur le sujet, mais sachez que ça faisait plus de 40 ans que la ville perdait des habitants. Donc pour nous, c'est un signal fort qui vient aussi couronner un peu les travaux que nous faisons dans cette ville et les efforts que nous faisons dans cette ville pour lui rendre son attractivité depuis maintenant au moins 1995, parce que moi je suis élu depuis 1995.
Alors justement, vous êtes élu depuis 1995, mais vous avez toujours été dans le conseil municipal. En tout cas, vous étiez très motivé. Vous êtes motivé pour être maire. Il faut être motivé parce que c'est un travail considérable maintenant aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut une vraie motivation, parce que être maire au début du 21e siècle, ça implique toujours plus de charges, toujours plus de responsabilités, avec toujours moins de moyens. Et vous voyez, l'équation n'est pas facile à tenir. Et puis, être maire aussi d'une ville comme Sedan, mais je parle pour tous mes collègues, vous confirmerez, je crois, c'est faire un peu fi de sa vie privée. Donc c'est un vrai sacerdoce que d'être maire. Alors si vous n'avez pas cette motivation, si vous n'avez pas l'amour de votre ville, parce que c'est ça le ressort au fond, c'est aimer la ville et puis aimer les gens qui l'habitent, c'est-à-dire ici évidemment les Sedanais. Donc c'est ça le moteur au fond de ma vie. Modestement, j'essaie de le faire tourner au profit des autres.
Vous êtes passionné de votre ville, votre commune aujourd'hui. Comment peut-on la caractériser dans ses habitants? Il y a des jeunes, des moins jeunes, des retraités. Ils travaillent à Sedan, mais ils peuvent travailler aussi à Jarleville, ils peuvent travailler dans les environs.
Oui, bien sûr. Alors, la ville de Sedan a une particularité par rapport à d'autres villes de la région et de la même taille, c'est qu'elle est plutôt jeune. C'est-à-dire qu'on a une population de moins de 20 ans qui est encore très importante par rapport à d'autres villes. Mais comme toutes les villes aussi, on subit bien évidemment le vieillissement général de la population française. Mais on essaie de s'y adapter, on essaie de proposer des services, des loisirs, renforcer des structures aussi de protection pour nos anciens et faire en sorte que vous ayez 7 ou 77 ans à Sedan, eh bien vous puissiez bien vivre dans la ville. C'est pas toujours facile, il y a des difficultés aussi, et en particulier le chômage est encore un peu plus élevé que la moyenne nationale, même si ces derniers temps de belles implantations...
Ça s'est amélioré.
Oui, nettement. Et de belles implantations nous arrivent. Hein. Avant la fin de cette année, Indelcia, groupe que vous connaissez, qui est déjà installé à Charleville, va venir créer 250 emplois à Sedan. C'est pas une mince affaire. Et ça permet effectivement d'embaucher nos jeunes, surtout parce que ce sont des emplois qui ne demandent pas des qualifications extraordinaires, certes de la formation, mais c'est accessible à beaucoup de nos jeunes. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Vous savez, il n'y a pas de rebond démographique s'il n'y a pas derrière un fort développement économique. Et ce développement économique aujourd'hui, il est mieux porté aujourd'hui qu'hier parce que nous avons l'agglomération. Ensemble, on est plus fort que seul.
Il faut rappeler que vous êtes vice-président d'Antenne Métropole, mais on a quand même l'impression que le maire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ça part en vrille, mais le maire, il est quand même un peu le patron chez lui, quand même, il reste un peu le personnage de la ville.
Oui, ça c'est la grande question. C'est-à-dire que j'entends, comme vous, autour de moi, beaucoup de maires, en particulier de petites communes, le regroupement au sein des agglomérations, eh bien, ça nous enlève un certain nombre de pouvoirs. Moi, je dois vous dire que je ne considère pas que le fait d'appartenir à une agglomération, ça ait enlevé des pouvoirs à la ville de Sedan et à son maire. Pas du tout. Ça permet, au contraire, de réfléchir à plusieurs, d'engager des grands projets que seuls nous n'aurions pas pu mener, et qu'au final, c'est tout de même bénéfique. Alors, je peux comprendre que quand on est maire d'une petite commune de quelques centaines d'habitants, on ne sente pas immédiatement ce qu'on pourrait appeler les bienfaits d'un regroupement intercommunal. Mais pourtant, quand Ardennes Métropole développe l'enseignement supérieur sur son territoire, ça profite à tous, de la plus grosse à la plus petite commune. Quand on crée de l'emploi via l'action d'Ardennes Métropole, ça profite à tous, parce que l'emploi se crée à Charleville, à Sedan, à Brignobois, aux Anvilles ou dans des villes d'agglomération, il peut y avoir des gens de toutes les communes qui bénéficient des emplois nouveaux créés. Donc je pense que globalement, vous voyez, il faut essayer de regarder un petit peu au-dessus de soi, ouvrir les fenêtres, et puis travailler ensemble. C'est la seule façon aujourd'hui, je crois, moi, de faire en sorte que nos villes repartent de l'avant.
On aura l'occasion de faire avec vous d'autres émissions parce qu'il y a un grand sujet qu'on n'a pas abordé, mais on abordera plus tard. C'est bien sûr le stade de Sedan, le CSSA. On l'abordera, oui. Monsieur le maire. Simplement aujourd'hui, on est obligé de nous quitter parce que on a 9 minutes pour cette émission. Vous êtes un maire heureux, Didier Bayon, en 20 secondes?
Oui.
Bon, voilà, oui. Vous avez répondu. Merci Didier Herbillon d'avoir été avec nous et à très très bientôt sur RCF.
À bientôt, merci.
Et oui, on retrouvera bien sûr le maire de Sedan tout prochainement. Mais si on regarde la pendule, il est déjà 18h30, donc l'heure de retrouver avec beaucoup de plaisir Alexis Claudresse pour le journal régional.
Les titres de ce jeudi 21 septembre 2023, à l'occasion de la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié, un pique-nique partagé est organisé le samedi 23 septembre de midi à 17h au Grand Jard de Châlons-en-Champagne. Alors que seulement 30% de la population française est formée aux gestes qui sauvent, Groupama propose régulièrement des ateliers pour tous s'y former. Zoom sur cette initiative qui existe aussi dans le département des Ardennes.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La nouvelle est tombée hier en fin d'après-midi. Dans la Marne, 12 sites mémoriels rejoignent le patrimoine mondial de l'UNESCO, 4 dans le département des Ardennes. Ce sont au total 139 sites funéraires et mémoriels de la Belgique et l'Alsace de la Première Guerre mondiale qui ont fait leur entrée hier lors de la réunion annuelle du comité organisé à Riyad en Arabie Saoudite. Depuis 1914, l'Église célèbre la journée mondiale du migrant et du réfugié le dernier dimanche de septembre. C'est une occasion pour elle d'exprimer sa préoccupation à l'égard de différentes personnes vulnérables qui doivent se déplacer pour une raison ou une autre. Denis Renaud, responsable de la pastorale des migrants au diocèse de Châlons.
Les migrants sont là, les migrants continuent à arriver chez nous. Les migrants n'ont pas le choix de rester chez eux ou de partir. Ce qu'on revendique surtout, c'est qu'ils puissent être libres de faire ce choix, soit de rester, soit de partir.
La prochaine journée mondiale du migrant et du réfugié sera célébrée ce dimanche, donc le 24 septembre. Comme titre de son message annuel, le Saint-Père a choisi le thème « Libre de choisir, d'émigrer ou de rester », une situation toujours aussi préoccupante, même localement. Denis Renaud.
Continue à arriver des gens qui sont candidats à l'exil, voire aussi des réfugiés, des Ukrainiens, mais aussi les foyers d'accueil sont pleins, les accueils d'urgence sont occupés. Aujourd'hui, nous recensons 4 personnes à la rue que j'ai rencontrées ce matin au Secours catholique, par exemple, sans jusqu'à midi de solution d'hébergement, par exemple.
À Châlons-en-Champagne, plusieurs associations se mobilisent, notamment l'association Réseau Éducation Sans Frontières qui s'occupe environ de 80 jeunes mineurs isolés et hébergés dans des foyers, hôtels ou au sous-sol d'une église. De son côté, la pastorale des migrants du diocèse de Châlons propose un pique-nique partagé ce samedi 23 septembre de midi à 17h au Grand Jard de Châlons-en-Champagne. Denis Renaud.
Le samedi 23, à partir de midi, nous accueillons tous les migrants qui sont sur Châlons ou ailleurs et qui désirent de partager un moment de dialogue, un moment de fête, un moment de partage du pique-nique. Les gens peuvent venir avec leur pique-nique, ils sont invités à venir au Grand Jard. Là, je m'adresse à toute la population, en fait. Les gens peuvent venir au Grand Jard avec un pique-nique, avec peut-être un peu plus, pour pouvoir partager avec les personnes qui n'ont rien. C'est une réalité ici sur Châlons, des gens ont faim.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Christopher d'ailleurs qui nous informe des coups de vent qui ont eu lieu tout au long de l'après-midi, qui ont causé quelques dégâts, notamment sur la commune de Courcy, non loin de Reims, et de la Neuvillette, avec 8 interventions pour des chutes de matériaux. A priori, une vingtaine de maisons ont été impactées avec des dégâts assez limités. Hein. Quelques tuiles qui se seraient envolées, rien de bien grave, mais c'est toujours impressionnant ces coups de vent. Attention, prudence si vous êtes sur la route, à ne pas vous faire balader en voiture. Dimanche, les élections sénatoriales permettront de renouveler la moitié des sièges du Sénat, soit 170 sièges renouvelés par moitié tous les 3 ans. Les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral formé principalement d'élus locaux. Il y aura notamment, pour votre information, des élections dans le département de la Marne. Et si on donne des nouvelles déjà de ce qu'il se passera ce week-end, Jean-Pierre, c'est parce que demain, de manière tout à fait exceptionnelle, il n'y aura pas de magazine régional, programmation spéciale venue du pape François à Marseille.
Absolument, le réseau RCF et les stations, bien sûr, locales dans les différents diocèses reprennent ce rendez-vous national et international, donc demain soir et même samedi matin. Il n'y aura pas, par exemple, de magazine week-end, pas d'autres émissions, ainsi bien sûr que le samedi soir. Mais on retrouvera, je crois, Sportiplex quand même le soir, parce que c'est après la messe du pape.
De 19h30 à 22h, tout à fait. Depuis 2021, Groupama organise pour l'ensemble de la population, pour tous les départements de France, des formations aux gestes qui sauvent. Une trentaine sont proposées dans les Ardennes. En France, seulement 34% des personnes sont formées aux gestes de premier secours, dont l'ensemble du personnel médical et des personnels encadrants ayant l'obligation de la recevoir. Autant dire que si l'on a besoin d'être sauvé d'un danger, notre prochain n'est pas forcément en mesure de nous aider. Bien dommage quand on sait que le temps moyen d'intervention des secours est de 13 minutes et que chaque minute de passé, c'est 10% de chance de survie en moins. Béatrice Girardin, animatrice de la vie mutualiste Groupama pour le département des Ardennes.
Suite à ce constat, Groupama a décidé, en fait, de pouvoir sensibiliser l'ensemble de la population, et je dis bien l'ensemble, puisque les sessions de sensibilisation sont ouvertes à tous à partir de 10 ans, sous forme de formations qui sont réglementées, dont le contenu est bien entendu habilité et agréé, donc, par les services de l'État, en passant par des sociétés de formation, donc, qui sont habilité. Et donc, en ce qui concerne Groupama, dans l'ensemble des départements, depuis 2021, nous invitons la population à suivre gratuitement, puisque la formation est prise en charge par Groupama, ce type de séance.
À l'issue de la formation, vous serez en mesure d'établir un petit diagnostic et de transmettre des informations précises au secours le jour où vous vous trouverez dans une situation d'urgence.
Cette séance dure à peu près 2 heures avec, donc je l'ai dit, un formateur qui est habilité. Et donc ce formateur va bien entendu apprendre à faire le diagnostic, à savoir prévenir efficacement les secours, à mettre le blessé en position latérale de sécurité. On va apprendre également à faire un bandage, voire un garrot en cas de saignement ou d'hémorragie, pratiquer un massage cardiaque, puis bien entendu se servir d'un défibrillateur. Et là on sait que l'ensemble de nos concitoyens ont à cœur d'apprendre cette partie.
Accessible à toutes et tous sur inscription dès l'âge de 10 ans, ces formations sont à consommer sans modération. Plus d'informations et inscriptions sur www.groupama.fr ou directement auprès de Béatrice Girardin, 06 80 12 40 71. 06 80 12 40 71. Sport, basket, première de la saison réussie pour le Champagne Basket qui jouait hier soir en 64e de finale de Coupe de France sur le parquet de Poissy. Victoire 96-57. Le deuxième match officiel de la saison arrive dès demain à 20h avec un déplacement du côté de Rouen pour l'ouverture de la Leaders Cup Pro B. À noter qu'avec la visite du pape François à Marseille que l'on évoquait il y a quelques instants, demain vous ne retrouverez pas votre magazine régional puisque RCF vous proposera une programmation spéciale liée à l'événement comme le précisait Jean-Pierre. C'est pourquoi dès ce soir on vous donne un rendez-vous foot ce week-end dans Ligue 2. 3 recevra Auxerre samedi à 15h. La 6e journée de Ligue 1 entre Lille et Reims se jouera elle seulement la semaine prochaine. Le rendez-vous c'est mardi soir. On aura l'occasion d'y revenir dans le magazine régional 18h38.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Et sans plus tarder, c'est l'actualité de la journée. On part sur les bords de la Méditerranée.
Avec nous depuis Marseille, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et à toutes.
Alors vous êtes déjà sur place à Marseille, le pape arrive demain. Que faites-vous aujourd'hui Monseigneur et quel est le programme? Comment ça va se passer tout ça? Non seulement comme archevêque de Reims, mais aussi président de la conférence des évêques de France.
Alors déjà nous sommes arrivés, nous ça veut dire les évêques, nous sommes arrivés hier. Hier soir il y a eu ici au palais du Pharo qui domine le vieux port de Marseille, il y a eu une rencontre inaugurale. Nous avons retrouvé le groupe des 70 jeunes de la Méditerranée, de tous les pays possibles des alentours méditerranéens, qui eux sont là depuis dimanche soir. Alors les jeunes avaient tout un programme pour apprendre à se connaître et réfléchir. Voilà, hier soir, les jeunes ont été lancés. Ce matin, nous avons eu une belle messe à la cathédrale de la Major à Marseille. Et puis ensuite, le matin, un évêque de chaque rive de la Méditerranée, on en compte 5, avec... la rive nord-africaine, la rive de l'Est, de la Terre Sainte, le Liban, etc., la mer Noire, les Balkans, et puis l'Italie et la France. Voilà, 5 évêques donc nous ont donné un peu les défis, les préoccupations qui sont les leurs et qui pourraient être partagées. Et nous avons eu un groupe de travail ensuite pour réagir à cette présentation. Puis là, après le déjeuner, nous avons eu un écho de ce que les jeunes ont fait pendant les 3 jours précédents. Et ensuite, Madame Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne et ancienne présidente du FMI, ancienne ministre de l'économie et des finances de notre pays, nous a fait un peu un panorama de la situation méditerranéenne et des perspectives positives que l'on pourrait trouver. Parce qu'il y a beaucoup de réalités pas très réjouissantes, mais il y a quand même des perspectives positives. Et après vous avoir parlé, eh bien, je rejoindrai un petit groupe d'évêques pour réagir à tout ce qui s'est passé aujourd'hui et aboutir à des réflexions plus concrètes.
Monseigneur, tous les évêques de France ne sont pas encore présents à Marseille.
Non, en fait, il y a ici à Marseille surtout les évêques des bords de la Méditerranée, évêques de la province de Marseille, de celle de Montpellier et de Perpignan, enfin de Montpellier. Et puis, moi, j'y suis en tant que président de la conférence des évêques, puisque c'est toute la France qui a une façade méditerranéenne. Et il y a aussi Mgr Ulrich en tant que archevêque de Paris, mais en tant qu'ordinaire des orientaux, puisqu'il y a beaucoup de catholiques orientaux n'ayant pas d'évêques propres en France, qui habitent à Marseille, ou sur les bords de la Méditerranée.
Le programme de vendredi, bien sûr, il peut être modulé, mais c'est l'arrivée du pape. On imagine que demain, il sera accueilli. Comment ça va se passer?
Le programme de demain, en fait, les évêques et les jeunes vont se retrouver, ils vont travailler ensemble. Moi, je serai là, je participerai à ça le matin, mais l'après-midi, je devrais quitter cet ensemble pour une réflexion, pour aller rejoindre l'aéroport de Marseille et pour accueillir le pape à sa descente d'avion.
Vous allez entrer dans cette arrivée du pape. Et ça va créer quand même, ça crée autour de Marseille une activité spirituelle, une activité aussi, une animation un peu particulière, la venue du pape. C'est la première fois d'ailleurs qu'il est à Marseille et je crois en France il est déjà venu, mais il n'y a pas eu de voyage officiel, mais c'est important.
Alors Marseille, c'est la première fois qu'un pape vient depuis 500 ans, puisque le dernier, c'était pour le mariage, un pape pour le mariage de sa nièce, je ne sais plus si c'est Catherine ou Marie de Médicis, donc ça nous mène loin. Il y a beaucoup d'activités à Marseille, parce qu'il y a en ce moment la Coupe du Monde de rugby, il y a la Foire de Marseille, et puis il y a nos petites rencontres méditerranéennes. Bon, là, ça fait 140 personnes, c'est pas colossal. Ça suscite beaucoup d'animation dans la ville, parce qu'il y a beaucoup de... Ils en profitent pour faire tout un festival, donc il y a beaucoup d'offres, beaucoup de propositions dans toutes les églises, dans tous les lieux de culte, parce que les autres religions s'y sont mises aussi. La mairie est assez partie prenante. Et puis, évidemment, il y aura le pape vendredi soir et samedi. Donc, oui, il y a beaucoup d'animation dans Marseille. Parfait, ville pleine de vie, comme on le sait.
Monseigneur, la Méditerranée est toujours plus ou moins dans l'actualité, mais il est vrai, plus précisément ces derniers jours, avec les événements de Lampedusa, avec ces migrants qui arrivent, certainement que cette question, elle, d'une certaine façon, elle devrait être évoquée. L'actualité est très brûlante, là.
Alors la question des migrants, évidemment, est très brûlante, des flux migratoires qui vont du nord au sud, mais aussi d'est en ouest. Les pays d'Afrique du Nord craignent beaucoup d'être utilisés par les pays européens comme une sorte de frontière avancée, pas du tout équipés pour faire ça, ils ne sont pas prêts à le faire. Parce que les préoccupations qui nous ont été partagées, c'était intéressant. Il y a aussi tous les problèmes d'accidents climatiques, les incendies et les inondations ensuite en Grèce, les inondations en Libye, le tremblement de terre au Maroc, en Algérie des températures à plus de 50 degrés pendant cet été, dans des durées qu'on n'avait jamais connues de mémoire d'homme. Donc oui, nous sommes dans un monde en changement, une planète qui transforme aussi. Voilà, ça suscite des inquiétudes, éventuellement des angoisses, et l'enjeu pour nous, évêques, est d'avoir un regard réaliste, mais en même temps plein d'espérance. C'est aussi d'ailleurs le message de Madame Lagarde, parce que pour ne pas mener l'action politique et chercher le bien commun, en étant politiquement terrorisé par ce qui peut arriver, il faut pouvoir tracer des perspectives positives et espérer qu'on pourra transformer une situation difficile en une occasion de plus de liens, plus de fraternité. Ça suppose d'avoir confiance en Dieu. C'était un peu les derniers mots d'après-midi du cardinal Aveline. Notre grâce à nos chrétiens, c'est quand même d'avoir confiance en Dieu et de croire que Dieu nous donne les énergies, les forces, mais aussi les audaces nécessaires pour traverser des situations et transformer nos conditions de vie.
Monseigneur, on aura bien sûr le plaisir de vous retrouver. Ce sera pour vous seulement vendredi prochain. D'ici là, vous ferez un bilan sans doute de ce séjour et de cette visite du pape à Marseille. Vous avez autre chose à ajouter sur ce qui va se passer le week-end, sur tel ou tel aspect qu'on n'aurait pas abordé?
En tout cas, ce que je veux partager, c'est que pour moi, c'est très intéressant de participer à ces journées parce que ça me fait attendre de manière beaucoup plus intéressée, plus préparée, disons, à recevoir ce que le pape aura à dire. Le pape a beaucoup parlé avec Cardinal Avelin d'autres archevêques de ces rencontres méditerranéennes. Elles font suite à ce qui s'est passé il y a 3 ans à Bari, il y a 2 ans à Florence. Donc le pape a vraiment quelque chose à nous partager. Moi, je suis heureux d'être préparé intérieurement et intellectuellement, et puis un peu affectivement, à travers ce qu'on a entendu comme interrogation, comme témoignage, à recevoir de manière plus riche ce qu'il aura à dire.
Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous, archevêque de Reims, mais aussi président de la Conférence des évêques de France. Monseigneur, on vous souhaite un bon séjour à Marseille, de belles rencontres méditerranéennes, et puis ce contact avec le pape François.
Eh bien, merci beaucoup, ce sera... Et je vois que j'en rendrai compte à nos diocésains. À bientôt, Jean-Pierre, et à tous et à toutes.
À noter que demain, à 7h sur RCF Reims-Sartène et à 8h, nous retrouverons Mgr Étienne Véteux. Et nul doute que la question du rendez-vous de Marseille, auquel d'ailleurs Mgr Véteux participera, sera l'une des questions importantes de son intervention demain.
Le 18-19 sur RCF.
18h46, des nouvelles de notre diocèse en local dans l'actualité du diocèse de Châlons. La journée diocésaine de la pastorale des personnes handicapées aura lieu cette année le 30 septembre dans l'espace missionnaire de l'Abri. L'occasion aujourd'hui de découvrir les grandes lignes de cette journée, mais aussi de la rentrée pastorale de cet espace missionnaire avec son doyen, le père Denis Véju et Dominique Pinard, veilleurs au service de la justice, de la solidarité à la paroisse Sainte-Léonie à Via, au micro RCF de Christian Lanciot. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Denis et bonjour Dominique.
Bonjour Christian.
Bonjour Christian. Et donc, en cette rentrée scolaire, Denis, on va d'abord faire un point, puis après on en parlera avec Dominique de la journée diocésaine de la pastorale des personnes handicapées. Et on va parler, Denis, donc, de l'année, la rentrée pastorale.
Eh bien, elle se présente sous les meilleurs auspices. Voilà, les vendanges étant en voie de s'achever, hein. On a décalé un petit peu la messe de rentrée paroissiale dans plusieurs paroisses, celles qui sont en particulier sur le territoire de Vendange. Il y a quand même 3 paroisses de notre espace missionnaire. En tout cas pour ces ânes, ce sera le dimanche 24 septembre. Voilà, c'est l'occasion, ces dimanches-là de septembre, d'accueillir... au sein des communautés, le prêtre qui est venu nous rejoindre, c'est le père Janvier Roger Sanon, qui a commencé son service de prêtre Fidei Donum l'année passée à Sainte-Menou et qui vient du Burkina Faso, sans ça. On est très heureux, évidemment, de l'accueillir au sein de l'équipe des prêtres de notre espace missionnaire.
Donc c'est un compatriote de Pascal.
Absolument, absolument. On accueille aussi un autre prêtre, comme prêtre auxiliaire, prêtre retraité, qui est donc plus en responsabilité pastorale. C'est le père Joël Morlaix, que nous connaissons bien.
Donc lui, il habite à Fère-Champenoise.
Absolument, il habite le presbytère de Fère-Champenoise. Le prêtre référent pour cette paroisse, ce sera le père Janvier Roger Sanon.
Alors, on parle donc un peu de la rentrée. Donc, on a parlé de la messe du 24, donc dans 4 jours. À part cette messe, comment qu'est-ce qu'il y a de spécial pour la rentrée ?
Bien, on va dire que c'est les activités de rentrée un petit peu habituelles, traditionnelles, spécialement la rentrée du caté, la rentrée de l'aumônerie. Parmi les joies de cette rentrée, c'est l'accueil d'enfants et de jeunes qui demande le baptême, hein, d'enfants en âge de scolarité. On a sans doute une baisse du baptême des petits-enfants, mais on a une augmentation sensible de la demande d'enfants et de jeunes, enfants souvent d'ailleurs provenant des écoles catholiques comme l'école Saint-Denis de Cézanne. Et donc, par exemple, la messe de rentrée, on aura une étape de baptême pour un lycéen, voilà. Donc c'est vraiment une joie et puis ça donne un dynamisme à toute la communauté chrétienne de participer à ces célébrations d'étapes de baptême d'enfants et de jeunes.
Alors ces enfants ou ces jeunes qui sont baptisés donc à partir de 7, 8 ans, 10 ans comme le lycéen là, on les appelle des catéchumènes ?
On va dire, je ne sais pas si on leur donne ce nom-là quand on les rencontre, hein, mais ce sont des catéchumènes, ce sont des personnes en recherche et qui font une démarche en vue du baptême, quoi. Hein, voilà.
Alors cette messe de rentrée du 24, on en a parlé rapidement, on bénit toujours les cartables ?
Absolument, on bénit les cartables, c'est aussi la messe de rentrée du caté, voilà, de l'aumônerie. Donc effectivement, il y a un temps substantiel, on bénit non seulement les cartables, mais on bénit les enfants pour qu'ils aient une année scolaire qui soit... rempli voilà, de la présence du Seigneur, de sa force pour les études et puis pour leur vie scolaire, leur vie en famille. Puis on bénit aussi les catéchistes, c'est important. Voilà, tous ceux qui rendent service à l'annonce de la foi pour les enfants et puis les jeunes.
On donne rendez-vous à toutes les personnes de ces années alentours, donc à cette messe de rentrée du 24 à 10h30 à l'église Saint-Denis.
Voilà, alors... on accueille évidemment les nouveaux prêtres qui seront en service sur notre espace missionnaire, mais on accueille aussi à cette messe de rentrée les nouveaux paroissiens. Voilà, on veut leur faire un bel accueil, qu'ils se sentent chez eux, chez nous, et puis qu'ils aient envie de mettre leur talent, leur qualité au service de notre communauté paroissiale.
Merci Denis. Bon, Dominique, alors, on parle de cette journée diocésaine de la pastorale des personnes handicapées. On en parle à Cézanne parce qu'elle a lieu à Cézanne.
Oui, tout à fait. L'année dernière, j'avais été invité à Suippes puisque la journée se déroulait là-bas, ce qui m'a permis de découvrir l'organisation. Bon, le milieu de handicap, je connais un peu, mais j'ai pu découvrir un moment formidable de joie, de convivialité. Et la journée s'est terminée par la présence de l'évêque avec une messe où la population de Suippes est invitée. Donc j'espère qu'à Cézanne, nous aurons la présence également de l'évêque avec une confirmation, ce qui est formidable. Et j'invite, enfin Denis pourra le confirmer, j'espère, toute la population de la paroisse, les chrétiens de la paroisse, à venir partager avec nous cet après-midi.
Alors, ça se passe où, quand, comment ?
Alors, le rendez-vous est à 10h30 à la Maison des Sports, à Cézanne même. Il y aura différents ateliers, un atelier fleurs, un atelier pour préparer les prières universelles, et puis des chants, bien sûr, et dont certains chants seront animés, parce que je pense que c'est joli et que ça permet à certaines personnes de vivre plus intérieurement la cérémonie.
Bien, alors Dominique, à la fin de ces ateliers, vers midi, je pense, qu'est-ce qui se passe ?
C'est cela. Mais vers 12h, il y aura un repas tiré du sac où chacun est invité à amener sa collation. Aussitôt le repas, il y a une reprise des ateliers pour ceux qui n'auraient pas terminé. Et ensuite, nous nous rendrons à l'église de Cézanne. Il y a un petit changement de lieu parce qu'il y a une exposition européenne à la chapelle de l'hôpital. Mais nous serons bien accueillis dans l'église, dans notre église de Cézanne, et le départ pourra se faire vers 14h30 pour être à 15h30 à l'église de Cézanne.
Bien, bon, c'est parfait. Alors, vous attendiez qui pour participer à cette grande journée ?
Alors, nous accueillerons avec plaisir toutes les associations, tous les mouvements qui tournent autour du handicap au sein de notre diocèse.
Et au-delà, Denis ?
Au-delà, ben, évidemment, à la messe qui clôture cette journée de rassemblement des personnes handicapées, avec notre évêque, donc, nous attendons, nous espérons la présence nombreuse des paroissiens, non seulement de Cézanne, mais aussi de l'espace missionnaire de l'Abri. C'est une expérience toujours très enrichissante, ces célébrations avec les personnes handicapées. C'est vraiment des beaux moments de fraternité, de vie chrétienne, de prière avec les personnes handicapées.
Et la messe est présidée par l'évêque, je suppose ?
Absolument.
Donc deux rendez-vous importants, on a dit donc le 24, messe de rentrée avec, on bénit les cartables, c'est ça ? La bénédiction des cartables. Et puis le 30 septembre, c'est un samedi donc, c'est ça ? 10h30 à la maison des sports de Cézanne. Merci Denis, merci Dominique. À bientôt, au revoir.
Effectivement, merci à toute l'équipe, le père Denis Véju, le père Dominique Pinard, pardon, et Christian Lanciot. Depuis le sud-ouest marnais, la journée diocésaine de la pastorale des personnes handicapées aura lieu le 30 septembre dès 10h30 à la Maison des Sports de Cézanne.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h55 sur RCF, Reims-Ardenne, RCF, Cœur de Champagne, RCF, Champagne-Ardenne en DAB+. Une fois n'est pas coutume, ce jeudi, c'est en fin d'émission que l'on retrouve Parole de Jeunes avec le témoignage bouleversant de Maria qui vit en foyer, qui s'entretient avec Jeanne Boudre.
Bonjour et bienvenue dans Parole de Jeunes. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Maria qui vit en foyer et qui a décidé de nous raconter son expérience personnelle. Bonjour Maria.
Bonjour.
Maria, depuis quand vis-tu en foyer ?
Je suis au foyer depuis le 25 août 2021.
Par où es-tu passée pour arriver en foyer ?
Alors, j'étais déjà suivie par une éducatrice depuis mes 13 ans, donc j'avais déjà une éducatrice. Du coup, elle a décidé de me placer à ce moment-là. Parce que j'ai dû être dans un autre foyer pendant une nuit, enfin ça a été compliqué, et puis 5 jours plus tard, elle m'a placée dans un foyer.
Comment fonctionnent les foyers ?
Alors du coup, on est avec des éducateurs qui nous prennent en charge. Actuellement, je suis avec 6 éducateurs, avec des jeunes. Donc dans mon premier foyer, il y avait 6 éducateurs et 10 jeunes, donc j'étais dans un foyer de filles. Il y a des règles quand même à respecter, ils doivent être toujours à l'écoute, toujours nous soutenir, etc. Ils aimeraient bien qu'on ait une vie quand même assez bien.
Quelles sont tes relations avec les éducateurs et les jeunes présents dans ton foyer ?
Mon premier foyer, alors les éducateurs étaient tous sympas. J'ai quand même eu un peu de mal avec certains, mais ça s'est fait. Les jeunes, pareil, c'était super compliqué. Il y avait plein de disputes, c'était assez mouvementé, mais on a quand même réussi à s'entraider, etc. Là, dans mon foyer actuel, c'est pareil, je m'entends avec tous les éducateurs, il y a une super ambiance. Là, on est avec 6 jeunes et c'est mixte cette fois-ci, donc ça se passe plutôt bien. Vraiment, on est super soudés, etc., donc il n'y a pas de souci.
Comment la vie en foyer impacte-t-elle ta scolarité et ton quotidien en dehors du lycée ?
En seconde, ça m'a beaucoup impacté quand même. J'avais du mal à rester concentré en cours, sachant que j'ai dû changer de lycée en plein milieu d'un trimestre. Là, j'ai quand même eu beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup raté de cours par rapport à mon anxiété. Là, je suis dans un environnement où je me sens mieux, donc ça va mieux.
Quelles sont les mauvaises expériences que tu aurais pu avoir ?
Dans mon foyer actuel, il n'y a pas eu de mauvaises expériences, tout se passe bien. Dans mon premier foyer, il y a quand même eu plusieurs mauvaises expériences. Je me sentais vraiment mal, j'ai pu me faire beaucoup de mal. Avec les jeunes, on se bagarrait quand même beaucoup. Il y avait des personnes en situation d'handicap, donc c'était super compliqué. Elles cassaient des verres pour se faire du mal, elles se bagarraient avec les autres filles. Enfin, moi, ça me rendait pas bien, je faisais souvent des crises d'angoisse. Donc vraiment, au niveau mauvaise expérience, j'étais assez dedans dans mon premier foyer et du coup, dans celui-là, ça passe mieux.
Donc au final, quels sont les points positifs et les points négatifs de la vie en foyer ?
Les points positifs, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire de nouvelles connaissances et à être dans un monde que pas beaucoup de gens connaissent. Mais pour tout ce qui est ambiance, etc., genre c'est super. C'est pas pareil, mais tu peux compter ça comme une deuxième famille beaucoup plus grande et beaucoup plus soudée. Le point négatif, c'est que du coup, bah, ça peut être pareil que si t'es avec tes parents. Donc t'auras toujours ce manque-là d'affection de tes parents ou même si t'as des frères et sœurs, de pouvoir t'amuser avec eux. Ça va être assez compliqué.
Merci beaucoup Maria de ta participation. C'est tout pour cette interview et à la semaine prochaine dans Parole de Jeunes.
Et lorsque l'on entend le générique de Parole de Jeunes, c'est l'occasion d'avoir une pensée pour Sati Dosso qui est partie étudier à Lille, qui nous écoute ce soir. Elle nous a envoyé un petit message, elle nous a dit « J'écoute, j'ai envie de voir ce que fait Jeanne, etc. » Et bien voilà, on te salue Sati, on est très content pour toi que tu t'amuses du côté de Lille dans tes études, parce que tu travailles aussi un petit peu. Nos auditeurs doivent connaître la vérité. Voilà, merci d'être fidèle à nos programmes sur RCF Reims-Ardenne, RCF Cœur de Champagne. Demain, exceptionnellement, à 18h10, il n'y aura pas de magazine régional. Programme spécial proposé par RCF National et toute la rédaction pour la venue du pape François à Marseille. On se retrouvera lundi 18h10, mais vos programmes locaux, eux, auront bien lieu dès 7h du matin sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne. À mes côtés, Mélissa Tavares qui nous a accompagnés ce soir. On l'a salué en début d'émission. On va la remercier d'avoir été avec nous jusqu'à 19h. Une très bonne soirée, Mélissa.
Ben, merci beaucoup.
Et puis on te retrouvera un petit peu plus tard dans les prochains jours, la semaine prochaine. Peut-être, pourquoi pas, que tu te mettras à la météo. Nos auditeurs aiment bien quand les stagiaires font la météo. Sache-le, ça sera une punition. Ou peut-être que ça sera agréable pour toi, c'est toi qui nous diras. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde. Dans quelques instants, l'actualité nationale avec le réseau RCF. Et puis à 19h12 sur RCF Reims-Ardennes, c'est les méditations.